Il est temps à présent de retrouver Backstage le podcast. Backstage le podcast, vous le savez, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts, si vous le souhaitez, à cette adresse podcast.osha.co/backstage le podcast, c'est un peu compliqué, podcast.osha.co/ la barre de travers, backstage, le podcast tout attaché. Aujourd'hui donc, quatrième et dernière partie de l'entretien consacré à Constance de Montois, la directrice de casting, au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin, un entretien, je le précise, enregistré en novembre 2020.
J'ai lu qu'il y avait beaucoup de différences dans la façon d'exercer ce métier de directrice de casting en France par rapport aux États-Unis, notamment aux pays anglo-saxons en général. Comment ça se passe aux États-Unis, par exemple?
Alors, aux États-Unis, tout est beaucoup plus structuré. Comme vous savez, il y a vraiment des guildes, etc. Donc, pour ce que je sais, je n'y ai jamais travaillé. Même au niveau du casting, tout est beaucoup plus hiérarchisé. Il y a toutes sortes de castings. J'avais rencontré une fois une assistante casting américaine qui me disait qu'elle faisait du... En fait, elle faisait du casting que pour des rôles de couleur, enfin des rôles d'afro-américains. Mais ça n'existe pas chez nous. J'ai entendu aussi, en rencontrant une fois une casting américaine qui prenait 10 minutes par personne. Enfin, il y a un côté... C'est à la chaîne, hein. Je crois qu'on n'a pas forcément l'impossibilité de faire beaucoup de prises. Donc quelque chose de beaucoup plus hiérarchisé, professionnel, structuré, y compris dans les grilles de salaire, etc. etc. Les anglo-saxons, pareil, travaillent de manière aussi plus structurée, hiérarchisée. Ils travaillent dans des studios, ce qui n'est pas toujours le cas à Paris, en France. Et aussi, ils négocient les salaires des acteurs, en fait. On leur donne une enveloppe, on leur dit avec tant d'argent, tu dois faire ton casting et négocier, faire tous les contrats. Nous, en France, on ne touche pas à l'argent. On est vraiment juste là pour proposer, conseiller. Ça, je pense que c'est une grosse différence aussi dans la place que prend le directeur de casting. On n'est pas celui qui négocie ensuite le contrat. Mais on a quand même une petite idée aussi, et ça fait partie de notre travail de manière plus technique, de quel est le tarif de tel ou tel acteur. Et selon les projets, on proposera pas les mêmes parce qu'ils sont pas au même endroit de salaire. C'est aussi l'aspect très concret du métier, en dehors du côté romantique. On voit des acteurs, on les propose. C'est qu'on connaît notre terrain. On sait qui on peut proposer pour tel film, combien ça coûte. Est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre ou pas? On a aussi une approche très concrète de tout ça, financière.
Et pourquoi en France, alors, c'est pas à vous de toucher au contrat? Puisque vous faites un gros, gros travail... pour débroussailler le terrain, faire beaucoup, beaucoup de propositions.
Parce que ça s'est fait comme ça, en fait. C'est un métier qui est relativement récent par rapport à d'autres métiers du cinéma. Vous savez, il y avait Margot Capelier qui était un peu une des pionnières. Dominique Besnéard qui a été casting dans les débuts. Françoise Ménidret. En fait, ce sont des assistants réalisateurs qui se sont spécialisés dans la recherche de comédiens. Ne s'est pas greffé là-dessus, justement, une capacité qui est plus de l'ordre de la production, c'est-à-dire de négocier les tarifs, les contrats, etc. Je pense que ça demanderait un petit peu de formation, d'entraînement en contrat. Je pense qu'on en serait capable et qu'on aurait peut-être des choses à gagner là-dedans. Mais c'est le cas dans d'autres pays aussi, plus latins. Je crois qu'en Italie non plus, ils négocient pas les contrats et tout. C'est vraiment les anglo-saxons qui font ça comme ça. Donc il y a des différences là-dessus. Puis je vous dis, dans la manière, ici, c'est un peu plus artisanal. On peut filmer dans un bureau avec une petite caméra, des gens qui parlent à côté. On donne nous-mêmes la réplique. J'ai travaillé aussi plusieurs fois sur des projets québécois. Et pareil, c'est beaucoup plus à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a un tarif pour un studio, un assistant, une personne qui donne la réplique, qui est engagée pour ça, quelqu'un qui est là pour faire des montages. Enfin, c'est tout ce que nous, on fait nous-mêmes un peu de briques et de broc. C'est très, très structuré là-bas. Et je vous disais qu'en ayant travaillé il y a quelques années sur Incendie avec Denis Villeneuve, quand il a reçu les essais, enfin, il a eu l'humour de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est le casting à la française », c'est-à-dire que on voit pas toujours très bien et le son n'est pas terrible, quoi, pour résumer. Mais c'est la French touch.
Ça veut dire que c'est une profession qui manque d'organisation en France. Par qui vous êtes représenté
On a créé il y a quelques années une association qui s'appelle l'ARDA, l'Association des directeurs de casting. Alors, on n'a pas le droit de s'appeler directeur de casting parce que, à l'époque, le CNC trouvait que ça faisait trop anglais. Donc, on est officiellement responsable de distribution artistique. On est les seuls en Europe. Donc ARDA, pour se regrouper, parler de toutes ces questions, c'est pas un syndicat, ça n'a pas vocation à l'être. Mais à un moment, comme on travaille tous en électrons libres, personne ne se parlait. Je crois que c'est Stéphane Fuenquinos, qui est maintenant réalisateur, qui a eu l'idée de créer cette association pour justement partager les problèmes, les envies, etc. Je pense qu'il faut que nos employeurs prennent le pli, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis, ça demande un peu plus de moyens, et de se dire que si on veut un travail plus propre, plus professionnel, voilà, il faudrait aussi mettre un peu les moyens, mais comme c'est pas forcément, comment dire, à l'ordre du jour en ce moment d'augmenter les budgets, on fait comme on peut.
Quand un budget pour un film, par exemple, est revu à la baisse, en quoi ça vous touche, vous ? Est-ce que ça veut dire que vous passerez moins de temps à faire des castings ?
Oui, j'ai notamment là, dans mes projets actuels, un projet pour le cinéma, un très beau projet, mais pour lequel il y a très très peu de financement parce que il est déjà, comment dire, dans une niche film d'auteur ou voilà. Enfin, donc oui, enfin c'est sûr que je sais que ça va être beaucoup de tension et parfois de sacrifice pour le réalisateur de devoir couper des scènes, des décors. C'est-à-dire que c'est plein de sacrifices à plein d'endroits, de tourner en moins de jours. Et aussi, à l'endroit du casting, on nous demande de trouver des acteurs dont le tarif ne dépasse pas tant. C'est l'occasion aussi de montrer des acteurs qui ont très peu tourné, de théâtre, qui viendront à ce tarif-là parce qu'ils mettent un pied au cinéma. Enfin, c'est, on essaye toujours de faire le mieux possible. Parfois, finalement, aussi, le manque d'argent signifie plus de liberté que quand on a un gros projet sur le dos à 10 millions et où forcément les gens qui donnent l'argent ont un regard dessus. Finalement, c'est aussi la garantie d'un peu de liberté de création.
Là aussi, il y a de la frustration quand on ne peut pas aller au bout de ses envies dans ce genre de cas.
Oui, ça peut. Oui, oui, c'est sûr, quand on n'a pas le temps nécessaire pour travailler et qu'on a l'impression parfois plus de réparer que d'avoir le temps de chercher, c'est dommage. Oui, c'est sûr, ça peut l'être. Parfois, le temps, on le donne, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Voilà.
Est-ce qu'on est très éloigné de ce que montre Pierre Niney dans sa série Casting ?
Alors, je n'ai pas vu absolument tous les épisodes, j'en ai vu quelques-uns. Est-ce qu'on est très éloigné
On voit beaucoup de directeurs de casting qui demandent des choses improbables, joue ton texte comme ceci, comme cela, et les acteurs qui ont tellement envie qu'ils sont parfois prêts à faire un peu n'importe quoi.
Bah oui, enfin de toute façon, il y a du vrai dans ce qu'il décrit, hein, même si évidemment il met en avant la partie la plus folle de ça. Mais parfois c'est vrai que c'est plutôt des séances de mime Marceau, hein, quand on est en train de faire semblant d'être dans un supermarché, de pousser un caddie alors qu'on est dans une salle vide, de parler à un voisin à droite qui n'existe pas, d'interpeller quelqu'un qui est à 10 mètres qui n'existe pas. Enfin parfois c'est vrai que c'est... C'est-à-dire qu'on est complètement dans l'imaginaire des acteurs. C'est là qu'ils sont très forts. Sur le tournage, ils sont préparés, habillés, il y a un décor autour. En casting, il n'y a rien, quoi. C'est l'acteur dans une salle vide avec deux spots et il doit tout faire exister par son imaginaire, par ses regards, par sa technique. Donc, oui, non, mais il a très bien, montré les choses, Pierre Niney.
Et ça vous demande à vous d'être capable de vous projeter.
Oui, tout à fait. Et puis, évidemment, on essaye d'aider, de fixer ensemble les regards, etc. Mais il faut penser cadre aussi. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est ce qui est dans le cadre. Et le moyen le plus simple, c'est de se dire, est-ce que j'y crois ? Et si je me dis, c'est bon, j'y crois, c'est bon. Voilà, c'est juste ça. Les comédiens, parfois, font des choses surprenantes.
Vous pouvez travailler sur combien de projets par an ? Parce que votre CV me semble quand même très très long, année par année. Combien de films par an, films ou séries ?
Écoutez, j'ai jamais compté. Après, il m'arrive d'être parfois un peu à cheval sur 4-5 projets. Donc, j'avoue que...
À cheval sur un mois
Sur un mois, deux mois. Le problème, pour nous organiser, c'est que les projets se décalent tout le temps. Que moi, avec l'expérience, je me bloque jamais complètement quand on me dit... garde ton mois de décembre et tout ça, parce que ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé, que finalement, on dit, ah bah non, finalement, ça tourne en avril. Et dans ce cas-là, on n'a pas de boulot, on n'a rien. Et les plannings sont très glissants, on essaye de s'arranger au mieux avec ça, de calculer le temps. Et puis voilà, on ne travaille pas tout seul. Moi, j'ai une assistante qui est super, qui m'aide beaucoup. Ça m'est même arrivé d'avoir plusieurs assistantes sur plusieurs projets. Mais bon, au bout d'un moment, on perd un peu la tête. Hein, donc, il ne faut pas faire ça tout le temps, tout le temps.
Ça donne l'impression quand même que la série de 10% est très réaliste. Vous faites ce métier par amour du cinéma, mais on a l'impression que ça rend parfois un peu fou aussi.
Oui, c'est sûr que c'est assez obsessionnel comme travail. Et puis très chronophage aussi, c'est-à-dire que le temps de faire passer les essais, c'est beaucoup de temps. Si vous prenez 20 minutes, une demi-heure par personne, tous les jours dehors, comme je vous dis, d'essayer d'avoir des choses au théâtre, enfin, c'est forcément... une passion ou une obsession, parce que sinon c'est un sacerdoce, quoi. Donc mieux vaut le voir du côté positif.
Vous ne vous lassez pas de ce métier ?
Non, pour l'instant, non. Je me lasse pas de ça. Il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des coups durs aussi, des gens, c'est-à-dire que aussi des gens qui changent de crèmerie, qui vont travailler ailleurs et qui vous appellent pas... pour vous dire, je change de directeur de casting. Donc, de même que les acteurs ont des déceptions, on en a. De même que dans 10%, dans la saison 4, il y a Élise Formin. On a tous connu des Élise Formin autour de soi. Donc oui, il y a des moments durs. Et puis, il y a aussi des très belles choses. Voilà. Donc non, moi, je me lasse pas. Et ça m'a énormément manqué pendant le premier confinement. C'était bien. C'est un bon moment de remise au point, je me disais, mais quelle chance j'ai de voir tous les jours autant de gens aussi fantasques et drôles et intéressants et parfois fous que sont les acteurs et d'avoir autant comme ça d'accès à la culture. Enfin, c'est vrai que j'ai réalisé à ce moment-là, plus encore que c'était, voilà, même si je vous dis, on travaille beaucoup, il y a des tensions, etc., mais que c'était un boulot super, quoi. Donc, j'y suis retournée. Avec encore plus de plaisir, quoi. Voilà.
Et ça vous donne envie de continuer ?
Ah oui, je pense que je vais continuer. Puis je vous disais tout à l'heure, comme le bon vin, on essaye de bien vieillir, quoi.
Merci Constance de Montois.
Merci beaucoup.
Merci à Constance de Montois de m'avoir accueillie dans son bureau entre deux castings. Ce podcast a été monté et mixé par Thomas Langlin. On se dit à très vite pour un nouvel entretien consacré au cinéma. D'ici là, remontez la playlist et découvrez d'autres épisodes sur le 7e art. Un monteur, un comédien de doublage, un cascadeur et un superviseur des effets visuels à écouter sur votre plateforme préférée ou sur notre site